Bonsoir à tous. Merci à Alain pour l'invitation, à Gabi et à Antoine pour ce culte et puis de pouvoir partager la parole avec vous. Je suis toujours un très grand fan de votre worship band. C'est toujours, vous avez de la qualité. Après, c'est pas juste de savoir comment s'ils ont bien joué, bien chanté. C'est aussi de savoir comment l'Église a bien chanté. Eh bien, loué. C'est dans les deux sens. Voilà, je ne veux pas trop m'attarder. J'avais à cœur de partager avec vous, c'est un petit peu... Alors, il y a une slide, on va y arriver. Ça va venir. Donc, je suis en implantation d'église. Je suis pasteur au sein de l'Union des Églises Apostoliques depuis 26 ou 27 ans. Et on est sur Lyon, Carré de Soie, à côté, depuis 2 ans et demi. Donc, je ne suis pas intéressé par les chrétiens. Je continue à prêcher, à enseigner, mais je recherche les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Christ. Ou peut-être qu'ils l'ont connu et qui sont dans la nature. Donc, je travaille... depuis longtemps, beaucoup la vision du monde et la vision biblique, de savoir quelle est la vision des gens dans leur croyance, dans leur vie, qu'est-ce qu'ils croient. Et c'est aussi intéressant pour les chrétiens, mais chacun finalement d'entre nous, ça va venir, nous avons une vision des choses. Le mariage, un homme et une femme qui se retrouvent ensemble, chacun vient avec sa vision. Je pense que si on faisait un sondage, hop, on peut mettre la première. Si on faisait un sondage, quelle est ta vision de l'Église? Je pense qu'on aurait aussi des visions et des regards différentes. Entre les générations, sur des événements, eh bien, la valeur qui va être mise sur ces événements va être complètement différente. Le regard masculin, le regard féminin sur des choses. Et il est nécessaire de savoir finalement, nous, quelle est notre vision. Et il y a une vision biblique, de voir le monde comme Dieu le voit. Et notre cœur peut être touché, mais beaucoup de passages dans l'Écriture nous parlent de pensée. Donc, vous connaissez Romains chapitre 12 et les premiers versets. « Soyez transformés », littéralement, c'est « soyez métamorphosés » par le renouvellement, non pas du cœur, le renouvellement de la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de ta pensée. Donc la pensée doit être nourrie, doit être sollicitée. Il y a une pensée que l'on reçoit de Dieu, de la parole, de l'enseignement. Et dans le psaume 139, verset 2, ce passage sur l'omniscience de Dieu, « Tu comprends de loin ma pensée. » Et puis, quelques versets après, il est dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. » Selon ce que nous pensons, Dieu sait ce que nous allons dire. Dans le Proverbe, chapitre 23, verset 7, ce passage est connu « Car il est tel que sont les arrière-pensées ou les pensées de son âme. » Ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. C'est un peu l'agrégation de notre culture, de notre arrière-plan, de notre éducation, de la vie qui est passée par là. Il y a une réalité de ce qui vient nous nourrir et de ce qui vient nous façonner. Et puis d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors j'ai mis une paire de lunettes qui symbolise, ça peut être des lunettes déformantes, teintées, qui nous aident à bien voir. Et ce qui importe, c'est d'avoir une vision selon le Seigneur, selon l'Écriture. Et en tout cas, est-ce qu'il y a un décalage parfois entre notre cœur et entre nos pensées? On peut croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. On peut croire les vérités bibliques, n'est-ce pas? Mais on se rend compte qu'il y a énormément de chrétiens qui sont malheureux, parce qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a une émotion, il y a une expérience ou il y a une connaissance, mais j'ai connu des pasteurs qui, pour eux, un homme est toujours supérieur à une femme. J'ai vécu des expériences d'église, de racisme, où les blancs envers les noirs. J'ai découvert qu'envers les Africains et certains dans l'église où j'étais en région parisienne, eux-mêmes étaient encore plus racistes que les blancs envers les noirs ou les noirs envers les blancs. Je ne fais pas de politique, mais... il y a une vision du monde et parfois, on connaît l'évangile et après 10, 20, 30 ou 40 ans dans l'Église et dans la foi, les valeurs profondes des individus n'ont pas été changées, n'ont pas été touchées par l'évangile. On peut prêcher justement le salut, connaître toute la parole de Dieu, on peut manifester les vérités bibliques, mais fondamentalement, il y a des choses dans le cœur qui ne sont pas changées. Et c'est en ce sens-là de vous interpeller, de vous amener, c'est aussi mon cheminement, sur quelle est votre vision du monde, vision biblique, est-ce que nous voyons, on est ensemble, est-ce que nous voyons comme Dieu voit? Bien sûr que c'est un cheminement qui est là, mais on a aussi besoin de connaître ce que les gens pensent, quelles sont leurs philosophies, leurs religions, et de pouvoir communiquer l'évangile au travers de cela. Alors la vision du monde, il y a plein de définitions pour résumer un petit peu, mais un vaste système de croyances qui nous aide à interpréter ce que nous croyons et ressentons et qui influence nos choix au quotidien. Ce que nous faisons, ce que nous disons, là où nous réagissons, eh bien c'est aussi le fruit de ce que nous sommes, de nos choix, de nos décisions, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons subi, mais de la parole de Dieu qui transforme notre cœur et notre pensée. Mais si nous nous arrêtons d'être régénérés par notre pensée qui doit se nourrir, et nous ne pouvons pas avoir les mêmes pensées à 20 ans que 30 ans ou 40 ans après. Il y a des chemins naturels, chrétiens ou pas chrétiens, dans lesquels on a évolué, heureusement. Mais il y a des domaines dans lesquels on reste figé, peut-être, on reste bloqué. Il peut y avoir des liens spirituels, il peut y avoir des choses nécessaires, un caractère qui n'est pas touché encore par la puissance de l'Évangile, mais nous avons besoin d'avancer. Selon notre éducation, selon ce qui a marqué notre vie, les films, la lecture, ce que vous aimez, vos passions, tout cela impacte et influence. Et c'est pour ça que Paul, toujours dans Romains 12, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent dans ce monde, parce qu'on trempe. » Et « Ne vous conformez pas au siècle présent », ça veut dire, c'est l'image d'un moule. Vous avez une même pâte de gâteau. Vous pouvez prendre un moule triangulaire, un moule à pizza, un moule à gâteau, ça va vous donner une forme différente, mais la pâte est différente. Et Paul dit, eh bien, c'est pas une question de moule, c'est une question de métamorphose. Littéralement, c'est la chenille qui devient papillon. On a un changement d'état. On n'est plus celui que l'on était par la transformation, par le fait d'être régénéré, mais aussi parce que nous réfléchissons. Nous nous laissons interpeller et nous n'acceptons pas simplement comme quelque chose d'établi. Alors, finalement, pour faire simple, parce que c'est un vaste sujet intéressant, la vision des religions, des pratiques, des croyances, ça rentrerait dans un extrême qui peut aller de l'animisme jusqu'au matérialisme. L'animisme, c'est le monde des esprits, que dans la matière il y a des esprits, dans les hommes il y a des esprits, que tout est esprit, et que les maladies, les malédictions sont esprits, tout est esprit. Ça c'est l'extrême, n'est-ce pas? Et puis on peut arriver sur la pensée grecque, le matérialisme. Matérialisme c'est pas le fait juste d'aller acheter, de consommer. Le matérialisme c'est de penser, de croire que tout est matière, uniquement matière, et qu'il n'y a rien de spirituel. Et nous sommes dans une culture et dans un pays français avec cette pensée grecque. Tout est matière. Le monde est limité. Ce que l'on n'explique pas, on met ça dans la catégorie du surnaturel. Mais tout est matière, tout est raisonnable. Le spirituel n'existe pas. Et la vision biblique, eh bien, intervient entre les deux. Oui, il y a un monde spirituel. Et le visible a été créé à partir de l'invisible. Il y a un monde de l'esprit. Le diable existe, les démons existent, les esprits mauvais existent dans la déchéance, mais tout n'est pas esprit. Et nous avons un créateur qui est différent de sa création, qui n'est pas matière lui-même, qui n'agit pas dans la matière. Et il y a également de la matière, où Dieu a créé la matière, il a pu dire tout est bon et très bon. Et lorsque Jésus est ressuscité, il avait un corps d'en haut, transfiguré de matière, il pouvait manger, boire, mais il pouvait aussi avoir une action qui est spirituelle. Et ce qui est d'en haut est spirituel. Mais spirituel ne veut pas dire seulement ce qui est esprit. Dieu spirituel a créé la matière, a créé le monde, a créé l'homme et la femme avant la matière. Christ transfiguré avait un corps. Et ce qui est spirituel, eh bien, c'est aussi un corps. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est de la matière. C'est spirituel. Et c'est là aussi, dans notre vision du monde et dans notre langage, en tant que chrétien dans les églises, on dit ça c'est spirituel, moi je joue au foot, mon gars ça c'est pas spirituel. Et on va voir après comment on fait la distinction. Ce que tu fais là comme activité, comme métier, c'est pas très spirituel. Ton loisir là, le piano et danser sur le piano, Eric, c'est pas spirituel. Mais là, quand tu amènes dans l'onction et la louange, ça c'est spirituel. Spirituel, ça veut dire ce qui est d'en haut, ce qui est de Dieu. Un corps spirituel. Et ce que nous faisons, que nous mangions, que nous buvions, tout ce que nous le fassions pour le Seigneur, en Christ, par lui. Et c'est là aussi le renouvellement de nos visions et des confrontations qui peuvent en venir. Alors la vision biblique, c'est la création, la chute, la rédemption et la glorification. Et rien que ça, ce sont des thèmes nécessaires à connaître et à travailler simplement, ce qui nous permet de répondre aux différentes visions du monde. Par exemple, là où il n'y a que matière, ou là il n'y a que esprit, eh bien, nous devons être en mesure simplement de pouvoir aussi argumenter et réfuter ces choses-là, dire voilà ce que dit la Bible, voilà ce que nous croyons, et de connaître déjà simplement ces choses. Ça va ? Alors, notre vision, c'est finalement, est-ce que nous sommes faits à l'image de Dieu ? Oui, amen. Est-ce que nous avons un Dieu qui est fait à notre image ? Et j'ai mis volontairement un petit dé à un Dieu qui est fait à notre image. Ou nous nous créons, nous nous constituons quelque chose, un Dieu qui peut être confortable, même dans le monde évangélique. Et toujours dans cette confusion et entre ce qui est de l'esprit spirituel et ce qui est de la matière. Et la vision biblique équilibrée, bien sûr, c'est cette réunion entre les deux. Il y a un monde d'esprit et il y a un monde également matériel. Une infirmière américaine, athée, est allée en Sierra Leone pour donner une formation à une dizaine d'infirmières de culture animiste qui croyaient que c'était essentiellement le monde des esprits qui dirigeait toute chose. Alors, elle a expliqué comment soigner la polio de manière médicale, pendant une semaine, et ensuite il y avait un examen que ces infirmières ont réussi. Et puis, lorsque la semaine est passée, l'examen était passé, il y a une infirmière de Sierra Leone qui lève la main et dit « Madame, maintenant qu'on a vu votre version, est-ce que vous voulez que je vous explique comment on attrape vraiment la polio ?» Alors, était un peu interloqué. Bon, bah, après une année, après une semaine, à quoi ça a servi ? La polio, on l'attrape par les sorcières. Elles nous mordent dans le dos et c'est comme ça qu'on attrape la polio. Elle avait beau enseigner de manière rationnelle, de manière médicale, cela n'avait pas remplacé leur vision du monde animiste, comment on attrapait la polio. Et bien sûr que dans la vision biblique, il y a un monde des esprits et on peut attraper des maladies, des malédictions, des choses. Et Jésus est tout puissant. Mais il y a aussi un monde matériel et on attrape des bactéries et des virus et la médecine soigne. Et c'est Dieu qui néanmoins guérit. Il y a un équilibre qui est derrière et d'une réalité que Dieu nous donne. Alors, est-ce que je vois le monde comme Dieu le voit ? Est-ce que j'ai envie de voir le monde comme Dieu le voit ? De me laisser transformer, de me laisser entraîner peut-être dans des chemins encore qui vont m'amener à un changement. Selon un sociologue américain, il dit « Une majorité de jeunes Américains adoptent la croyance selon laquelle un Dieu sans exigence existe surtout pour résoudre les problèmes et faire en sorte que les gens se sentent bien. » Une combinaison entre un serviteur divin et un thérapeute cosmique qui intervient en cas de besoin. C'est cette vision-là d'un Dieu qui est souverain, qui a fait toutes choses, et puis qui est là pour répondre aux besoins, qu'on se sente bien, un thérapeute, un conseiller, mais il est disponible pour répondre en tout temps, mais il ne pose jamais d'exigence ni de demande de sacrifice. Un Dieu fait à notre image. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Un Dieu qui est là, prêt à répondre, et quand il ne répond pas, ça ne va pas ? Que se passe-t-il ? Un Dieu qui nous laisse souverains, tranquilles, enfin, tant de choses, mais c'est une réalité qui se généralise. Alors, comment cela est-il arrivé ? En France et dans le monde entier, il y a eu un impact au XVIIIe siècle. Darwin, ça vous parle, et sur l'évolutionnisme, et ça a été comme une lame de fond qui s'est installée pendant près de 2 siècles, à savoir d'une évolution, un rejet du Créateur et de maillons qui manquent, etc. Mais l'Église, les pasteurs, les croyants ont été submergés par cette vague et par ce mensonge qui est venu, au point où quelque chose a commencé à se séparer et de dire, eh bien, on laisse la science et on laisse la raison, et nous, l'Église, on va s'occuper de la foi, ça va devenir du domaine du privé, et la foi n'aura plus d'intervention dans tous les domaines de la société, tous les domaines de la vie. Jusque pour rappeler que dans l'histoire, ce sont les chrétiens qui ont ouvert les hôpitaux, les universités, les écoles, l'éducation et tant de choses. C'est-à-dire que la foi et la pensée de Dieu et le mandat que les chrétiens et l'humanité avaient reçu bibliquement, eh bien, étaient mis en pratique. Et au fur et à mesure, il y a eu une séparation, il y a eu un retrait et il y a une dualité qui est apparue. Ça, c'est du domaine de la foi. Ça, c'est du domaine de la science. Ça, c'est raisonnable, ça, c'est personnel, et ça ne regarde pas la société, ça ne regarde pas les matières. On est passé d'une vision théiste, c'est-à-dire un Dieu créateur qui est proche de sa création, mais qui la laisse libre. Dieu nous a créés, on le croit, n'est-ce pas ? Des personnes croient, et puis il nous laisse libre. Mais on est passé à une vision déiste, c'est-à-dire à un Dieu qui a mis en place les choses et qui a pris une distance et nous a laissés tranquilles. La vision biblique théiste, c'est que Dieu a tout créé, mais il est proche. Il est transcendant, il est détaché de sa création, mais il est immanent, il est au cœur de sa création, il vit avec nous. Alors qu'une vision déiste, c'est un Dieu qui a mis en place, vous savez, c'est le grand horloger qui a créé le monde, et puis après il a laissé le monde libre et il laisse les hommes se débrouiller. Il n'y a pas de providence. Et c'est le Inch'Allah, c'est la fatalité, on verra ce qu'on verra, point barre. Et toutes ces choses, beaucoup de chrétiens le croient et le voient comme ça. D'un Dieu souverain, grand, et qui nous laisse libres. Mais Dieu est détaché, mais Dieu est présent. Et sa souveraineté et la responsabilité de l'homme, eh bien, marchent de pair et vont ensemble. Alors, lorsque l'on parle avec des chrétiens, moi ça fait 43 ans par la grâce de Dieu que je marche avec Dieu, quelques années en tant que pasteur. Alors le dimanche, est-ce que c'est le jour le plus important de la semaine ou pas ? Il y a un an parmi vous, j'avais partagé sur le travail, le mandat que Dieu a donné au travers du travail avant la chute. Le travail n'est pas une conséquence du péché. Après, c'est devenu compliqué à cause du péché. Mais c'est un mandat de Dieu. Quand nous travaillons, nous le faisons pour Dieu. Et Luther disait derrière le travail, il y a un travail, le travail de Dieu. Et derrière le repos, il y a un repos, le repos de Dieu. Et quand vous travaillez, quand vous faites une tâche, quand vous prenez soin, vous le faites pour Dieu et vous libérez les autres. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, des gens les ont fabriquées. Des gens ont investi, ils ont imaginé. Ça nous libère, n'est-ce pas ? On n'a pas à venir avec notre banc et notre chaise. Et ainsi de suite, nous nous libérons les uns les autres, et il y a là une bénédiction de Dieu. Et le vrai travail, voilà, le pasteur, ça c'est un métier spirituel. Moi je ne suis que comptable ou enseignant, bon voilà, mais ce n'est pas spirituel. Pasteur. Tout est spirituel, tout a une valeur. Nous le faisons pour Christ, en lui, avec un renouvellement. Et tout cela, c'est ce dualisme Les choses ont un peu évolué aujourd'hui, mais les plus anciens, vous ramenez ça il y a 10, 15, 20, 30 ans, c'était compliqué. On ne joue pas au foot le dimanche après-midi. C'est le jour du Seigneur, ce n'est pas spirituel. On va en réunion. Et puis finalement, on passe notre temps à l'église, on n'est plus en contact avec le monde. On crée une sous-culture et puis une musique chrétienne et des arts chrétiens. Mais les cathédrales que nous visitons, les plus grands chefs-d'œuvre de musique classique, de Bach et que sais-je, les vitraux et les arts et autres, et l'art qui a influencé, qui a marqué, c'est inspiré de la Bible. C'était des hommes et des femmes qui avaient foi et qui transmettaient au travers de l'art. Ils louaient Dieu et ils voulaient démontrer la gloire de Dieu et la majesté. Et nous nous sommes, avec ce dualisme, nous nous sommes enfermés dans notre culture, sous-culture chrétienne, nous coupons du monde et de laissant les arts, de laissant les médias, de laissant la politique, de laissant toutes ces choses au monde. Et la science, on l'a sortie de la relation avec Dieu. Et Dieu merci, il y a un mouvement sur la science contre la théorie de Darwin qui se fait, et des grands scientifiques avec des preuves scientifiques qui sont là pour démontrer sur la création. Mais pour nous, nous sommes dans notre monde et c'est compliqué maintenant. On a besoin d'un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de pratiques et de regards et de visions pour être en relation avec les gens, avec le monde. Moi, je suis membre dans un coworking, c'est tous des ingénieurs, des start-upers, des ceci, des cela. Et il me dit, c'est quoi toi ton projet ? Moi, je suis start-upper. Ah ouais ? J'implante une église, je suis pasteur. On rencontre des gens qui jamais n'auraient rencontré des chrétiens. J'encourage tous les pasteurs à aller dans des coworking et tous. Il faut être dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Ça remonte à quand la dernière fois vous avez pris l'apéro avec un musulman, un non-chrétien, un voisin, que vous avez été être dans vos loisirs, qu'est-ce que vous aimez faire ? Et il y a un film que j'aime, Les chariots de feu, Eric Liddle, histoire véridique. Il était là, il dit, quand je cours, je sens tout le plaisir de Dieu. Dieu m'a fait pour aller vite. Et il était missionnaire en Chine et il est mort en camp de concentration. Le plaisir que Dieu a dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Et vous devez sentir le plaisir que Dieu prend d'être créatif, d'être inventif, dans le quotidien et dans l'ordinaire, dans le banal qui est là. Chaque geste nouveau que nous faisons est différent de l'ancien, même s'il ressemble à celui qui était. Il y a un plaisir de Dieu, il y a une gloire, il y a une beauté de ce que Dieu fait, parce que tout est spirituel dès lors que nous sommes des nouvelles créatures. Nous le faisons en lui et par lui, remplis du Saint-Esprit. Et ne disons plus ça c'est spirituel ou ça ne l'est pas. Mais dès lors que nous sommes des enfants de Dieu, alors c'est spirituel et nous attendons un monde nouveau spirituel de matière. La raison appartient à Dieu, la réflexion à Dieu et il nous demande de réfléchir, de nous nourrir et de reconnaître est-ce que nous sommes dans une vision dualiste grecque et ça c'est encore dans l'histoire de la philosophie grecque, le corps est mauvais et puis l'esprit c'est bon, la sexualité c'est mauvais. L'alcool, avec modération, les repas, l'exercice pour son corps et toutes ces choses, le charnel, c'est mauvais, c'est le corps. Mais ce qui est de l'esprit, de l'intelligence, de la réflexion, ça c'est bon, c'est du mensonge. Tout est bon, dès lors que nous le faisons en Christ. Je ne parle pas du péché, et je ne parle pas de choses extrêmes, vous comprenez bien, vous connaissez la parole. Tout est bon, et ne soyons pas dans une dualité qui est là, mais nous avons été façonnés par une culture et par un esprit qui demeure encore aujourd'hui et nous devons grandir et évoluer dans une vision biblique. Alors, ça, frères et sœurs, c'est dramatique. Beaucoup de chrétiens ont une vision comme celle-ci. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas biblique, mais qu'on utilise tous. Jésus, viens dans ma vie, je te donne ma vie. J'ai bien aimé les chants, le verset qu'Antoine a pris, les chants qui étaient là. Mais partout dans la Bible, c'est Jésus qui nous appelle à le suivre. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, qu'il vient. Et d'autres chants, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Lorsqu'il a appelé ses disciples et les 12, il ne les a pas questionnés de dire, Pierre, quelle est ta théologie ? Jean, quelle est ta doctrine ? Toi, suis-moi. Et au fur et à mesure, il les a enseignés. Au fur et à mesure, il les a instruits. Et nous sommes appelés, bien sûr, à donner notre vie à Christ, à le recevoir, parce qu'il y a une nouvelle naissance et nous naissons de nouveau. Mais nous sommes appelés à le suivre. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de mon joug qui est doux et léger, qu'il prenne mes instructions et qu'il me suive. Et cette notion-là, c'est Jésus, en fait, qui vient dans mon royaume. Le royaume de ma vie, le royaume de mon travail, le royaume pour me bénir. Il vient pour améliorer mon ordinaire, pour faire de moi une bonne personne, là où j'ai un caractère, où je vivais d'une certaine manière. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des bonnes personnes. Il est venu pour faire de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, pour que le caractère de Christ grandisse en nous. Alors c'est compartimenté. Il y a Jésus qui est là, il y a des passerelles et on pourrait mettre tant de choses. Il y a mon moi, il y a l'église, il y a le travail. On positionne les choses comme ça. Le dimanche est le jour du Seigneur. Or là, c'est l'église, c'est spirituel. Et puis le lundi, ben, je me trouve au travail. Et c'est le quotidien, puis il y a une réunion de prière, puis peut-être un culte personnel, et puis le dimanche, et tout est cloisonné, on y donne une valeur. Et de plus en plus, eh bien, on se fait à la carte. Et quand notre royaume ne prospère plus comme on le souhaite, on dit « Seigneur, que se passe-t-il ? » Et puis on prend de la distance, et là, les petites bulles de loisirs ou d'autres, eh bien, elles vont grossir. Et celle de Jésus va diminuer. Mon moi va reprendre la place, l'église peut-être quand j'en ai besoin, etc., etc. Jésus n'est pas venu dans notre royaume. Mais il nous a transportés dans le royaume de son amour. C'est nous qui sommes dans son royaume. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et il est le centre, nous sommes en lui. Et tout doit partir de lui, tout doit irradier, et ça va nourrir toutes ces notre relation avec Dieu, relation avec nous-mêmes, la relation avec le corps de Christ, relation avec le monde. Tout est spirituel, dès lors que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, remplis de l'Esprit, nés de nouveau. Et Dieu a tout créé, il s'intéresse à tout. Tout a de la valeur et de l'importance pour lui, et dans ta vie et dans tous les domaines. Et il nous faut arriver à ne plus nous cloisonner. Je choisis mon mode, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelle est ta volonté pour ma vie, mais c'est ma vie dans ton plan, ma vie dans ta volonté, ma vie dans le royaume de Dieu. Et ça change tout. C'est là une réalité. Donc toutes ces visions, là je survole, mais un cœur partagé, une âme partagée, l'inquiétude, nous dit la Bible, nous dit Paul, vient d'une âme partagée. Un cloisonnement entre la tête, les pensées qui ne sont pas renouvelées et le cœur qui a expérimenté des choses. Ça amène aussi une séparation, ça amène de la tristesse. Où est l'épanouissement de la vie chrétienne ? En grandissant, en cheminant, de plus en plus, je réalise la laideur de mon péché, la hauteur et la mesure de la rébellion, et donc la mesure de l'œuvre de Christ et de la grâce. Nous n'avons pas été sauvés, une expérience, mais quand on grandit, plus on grandit et plus on découvre que Christ devient tout pour nous. De plus en plus, il y a un amour supérieur. Eh bien, nous découvrons que là où à l'âge de 13 ans, j'ai demandé pardon pour mes péchés, après avoir volé peut-être quelques tablettes de chocolat, ou etc., etc., au fur et à mesure, la mesure de la rébellion de l'humanité envers Dieu nous dépasse. Et alors, la mesure de la grâce et de l'œuvre de Christ à la croix nous dépasse. Il y a quelque chose dans les deux domaines qui est grandissant et qui doit l'être. Et qui nous amène à rechercher la sainteté, de dire « Christ, tu es tout pour moi ». Les choses pâlissent. Et c'est parce que nous découvrons un amour supérieur, l'amour de Christ. C'est cet amour-là qui nous rend capable de dire non au péché. J'ai vu dans ma vie, j'ai essayé, vous savez, face à l'impureté, face à des sentiments, face à des choses comme ça. On essaye, je suis chrétien, Seigneur. Mais ces choses-là ne fonctionnent pas. Et tant de choses, on s'épuise. Mais lorsque l'on laisse Christ, on vient tel que l'on est, et on laisse Christ grandir, qu'il y a un amour grandissant, on découvre combien son amour a été, eh bien, on arrête de faire les choses parce qu'il y a un amour supérieur qui nous donne envie de dire non ou de dire oui. Il y a un amour supérieur à nous-mêmes, à nos intérêts, qui nous permet de dire « Seigneur, je te suis. Seigneur, je renonce à ça. » Ou « Seigneur, je vais faire les choses maintenant et avec ton regard. » Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la baguette, c'est l'amour. Il gagne notre cœur par le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Et il nous donne envie de le suivre parce que lui a tout quitté, tout abandonné. Et il nous a transférés dans son royaume. Donc tout est spirituel dans son royaume. On est dans le royaume, on est le corps de Christ. On est animé, on est déjà, dans le déjà et le pas encore. Donc vraiment que Dieu nous renouvelle encore et encore. Ne soyons pas dans un dualisme, dans une pensée séparée, ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas. Mais laissons la vie de Christ dans tous les domaines de notre vie. Et de prendre plaisir en laissant Christ et de nous façonner et de nous transporter. Et puis de terminer, ça serait un autre sujet, mais qui est en lien avec cela. Je vous ai mis les nouvelles spiritualités non chrétiennes, mais ça peut être l'islam, ça peut être le bien-être, le yoga, la sophrologie, enfin toutes les choses qui ont cours, ou l'athéisme qui est derrière. Ça gravite souvent autour de l'un de ces trois pôles. L'orthodoxie, c'est-à-dire d'avoir, ça c'est Descartes, la juste pensée. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je suis en mesure de te dire ce qui est bien et ce qui est mal. On ne parle plus de Dieu, on parle de nous-mêmes. Vous avez également l'orthopraxie, c'est la juste action. Je fais, donc je suis. Je fais, donc je suis sauvé. Je fais, donc je suis une bonne personne. Et ça, c'est le salut par les œuvres. En tant que chrétien, on est aussi traversé par ces choses-là. Et l'orthopathie, c'est le juste ressenti. Je ressens, donc je suis. Quand je suis arrivé au coworking Lyon Liberté, première fois que j'étais, je mangeais et j'ai rencontré une personne qui était à côté de moi, on discutait et autres, et puis a dit ben moi, ma vérité, le fondement des choses, elle était dans l'orthopathie. Je pars de ce que je ressens. Et quand vous lisez un petit peu ces choses-là, des gens qui partent de ce qu'ils ressentent, dire ça c'est juste, je me trompe rarement, etc., eh bien, ils s'en prennent à Descartes. Je pense donc je suis. Donc il dit, Descartes ne nous a pas rendu service. Mais en fait, la vérité, la liberté, c'est on fait en fonction de ce que l'on éprouve, si c'est juste ou pas. Voilà des origines et des fondements. Ces choses-là en soi sont bonnes et doivent être bonnes. Sauf que dans la vision biblique, en théologie, on parle d'ontologie, il y a quelque chose qui est du domaine de l'être. Dieu dit « je suis ». Ce n'est pas nous qui disons « je suis ». Le commencement, c'est lui « je suis ». Et à partir de là, comme nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, à reproduire, eh bien, si nous sommes en Christ, si nous sommes en lui, si nous sommes avec il est, je suis, eh bien, cela nous amène à avoir une juste pensée. Cela nous amène à avoir une juste action et un juste ressenti. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. On est appelé à faire les œuvres, préparer par avance, rechercher, à faire le bien, à combattre toutes ces choses, à bien penser, à bien agir et avoir une santé émotionnelle aussi en Christ. Mais parce qu'au commencement, il y a « je suis ». Et c'est là également d'amener les personnes eh bien, qui peuvent partager ces religions, ces points de vue. Bibliquement, il y a une vision biblique, il y a quelque chose qui est là. Et pour terminer, toutes ces choses ne sont pas suffisantes. Avoir une bonne vision ne suffit pas. Nous sommes appelés à quoi ? À aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Cette vision juste biblique nous amène à aimer comme Dieu aime et à le faire connaître. À être des témoins de sa gloire et de sa beauté. à prendre plaisir, à être dans la simplicité de ce que nous sommes. Je suis, comme disait Paul, par la grâce de Dieu, ce que je suis en lui. Développe tes dons et tes talents. Fais ce que tu aimes en Christ. Ce pourquoi le Seigneur t'a doué, t'a qualifié, t'a équipé. Et que tu prennes plaisir en lui. Et que tu explores tout ce que Dieu te donne, quel que soit ton âge, ta situation. Parce qu'en lui, c'est nos limites dans ce monde. Mais il y a une perspective et ce que nous sommes, eh bien, est le commencement de ce que nous serons pleinement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce que nous faisons est en relation avec ce que nous vivrons. La fidélité que nous avons, eh bien, nous exprimons nos relations, nous les continuerons de manière parfaite et aboutie et complète dans la nouvelle réalité que Dieu vient, nous donnera, qui vient d'en haut, qui est spirituelle, mais qui sera matière. La raison est à Dieu, le rationnel est à Dieu, la science est à Dieu, et toutes ces choses-là. Alors, retrouvons de plus en plus cette unité de pensée, cette unité non pas de ce cloisonnement où la société séculière veut de plus en plus nous maintenir dans le privé, n'est-ce pas, et à l'écart. Mais soyons des témoins de Christ. Et c'est là le sens du message, de vous poser la question, de cheminer, de dire: Seigneur, quelle est ma vision? Quel est mon dualisme? Qu'est-ce que je considère, j'appelle spirituel ou pas? Quelles sont les paroles qui m'ont coupé dans mon élan? Peut-être jeune dans la foi, peut-être dans des environnements d'église où on a pu dire: ça c'est du péché, ça c'est le monde, ça c'est... Mais le monde est à Dieu, tout lui appartient, avec sagesse, avec grâce. Mais c'est lui rendre gloire et c'est de célébrer au travers des dons et des talents que nous avons, c'est célébrer le Créateur. Tout lui intéresse, mais pour aimer en son nom. Soyez bénis.